Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Nous venons d'enregistrer un nouvel épisode du service politique, notre balado, avec Léopold Audebert et Loïc Besson, qui suivent respectivement les campagnes de Éric Zemmour et de Marine Le Pen, quelques heures après les deux grands discours de l'un et de l'autre à Lille et à Reims, pour ce match des meetings que nous avons vécu sur BFM TV, de cette primaire nationaliste qui est au cœur de la campagne présidentielle depuis maintenant plusieurs mois. Donc avec Loïc et Léopold, on revient à tête reposée sur ce qui s'est passé en coulisses dans ces grandes réunions publiques que vous avez pu suivre en direct sur BFM TV. Nous sommes donc le dimanche 6 février, à 77 jours du second tour de la présidentielle, du choix des Français. Salut à tous les deux.
Salut Philippe, salut Léopold.
Salut Philippe, salut Loïc.
Toi Loïc, tu es à Reims, au parc des expositions où se tient la convention présidentielle de Marine Le Pen. Tu as suivi hier ce premier grand discours de campagne de Marine Le Pen. Et Léopold, tu es toujours à Lille. Nous étions à Lille ensemble hier pour vivre et pour faire vivre sur l'antenne de BFM TV ce grand discours d'Éric Zemmour. Moi je suis de retour à Paris, je suis dans un café, sur une terrasse de café, donc il y a du bruit de circulation et de voisins de table, ne soyez pas surpris. On va reparler de ce qui s'est passé pendant le meeting, mais avec quelques heures de recul, 12 heures de recul, puisque nous sommes dimanche matin. Est-ce que vous avez l'impression que vos candidats respectifs, que vous suivez, ont plutôt marqué des points ou perdu des points hier? Toi d'abord Loïc, Marine Le Pen, c'était un moment important de sa campagne.
Oui,
c'était un bon discours?
C'était un moment important parce que déjà, c'était son premier grand meeting de campagne et ça sera sûrement le seul avant vraiment la dernière ligne droite, peut-être la dernière semaine avant le premier tour. Donc, il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait aussi beaucoup d'attentes parce que c'était un duel. Éric Zemmour l'avait voulu ainsi et du coup, elle savait forcément qu'elle allait être comparée. Et je pense qu'elle a quand même réussi l'exercice dans le sens où elle a réussi à surprendre. Tout le monde retiendra ces 10 dernières minutes de discours où elle était seule en avant-scène, où elle est passée devant le pupitre et où elle s'est livrée sur un ton beaucoup plus intimiste, là où en général les conclusions des discours sont moments où le candidat enflamme la salle, enflamme les militants pour leur donner le go, le top départ. Elle a créé la surprise et elle s'est vraiment démarquée d'Éric Zemmour là-dessus.
Et d'ailleurs, pendant le discours, pendant cette partie plus intime à la fin du discours, quand elle s'est éloignée de son pupitre pour parler directement à la salle, je suivais ce qui se passait aussi en coulisses à Reims avec nos échanges sur la boucle WhatsApp que nous avions créée pour l'occasion. Et je disais, je ne sais plus si c'était toi qui écrivais ou Benjamin Duhamel qui était dans la salle aussi, que Marie-Caroline, donc la sœur aînée, la première des filles Le Pen était très émue et pleurait au premier rang, c'est ça, pendant cette partie-là.
J'étais aux premières loges et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus surpris parce que bon, Marie-Caroline, elle est clairement dans le staff de l'équipe de campagne. Elle était au
et
courant
son mari
de,
aussi,
elle
est, et son mari Olivier est un proche de Marine Le Pen,
qui est son proche conseiller tout à fait, qui écrit avec elle d'ailleurs ses discours. Donc il n'y avait pas de surprise pour elle. Elle était au courant de cette dernière séquence. Il n'empêche que oui, je l'ai vue tout de suite émue dès lors que cette séquence a commencé. J'ai vu ses larmes couler. Elle tentait de les cacher. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. Enfin, pour le coup, c'est pas des choses qu'on feint quoi. Enfin, les caméras n'étaient pas sur elle. Il y avait vraiment quelque chose. Il y a un aspect familial, clairement, de toute façon, chez les Le Pen, dans la façon dont ils font la politique. Encore plus avec elle, elles ne se sont pas parlé pendant des années. Et c'est vrai qu'en plus, on parle en ce
moment régulièrement.
Puisque
Marie-Caroline avait suivi Bruno Maigret
au moment
de
la scission,
fin des années 90.
Exactement. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bruno Maigret en ce moment parce que certains comparent ce qui se passe avec les défections à ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans maintenant. Sauf qu'à l'époque, Marie-Caroline, elle faisait partie de ce que Marine Le Pen appelle aujourd'hui les traîtres. Et donc, forcément, il y a des souvenirs peut-être qui remontent là-dedans. Et il semble quand même que Marine Le Pen se soit vraiment confiée spontanément, même si tout ça a été écrit, elle avait un prompteur, bien sûr, mais qu'elle se soit livrée comme elle ne le fait jamais, en tout cas jamais naturellement d'elle-même. Les seules fois où elle se livre sur sa vie personnelle, c'est quand des journalistes la tirent sur cette question lors des interviews, mais ce sont des exercices différents. Et ouais, c'est un moment assez fort quand même, je dois le dire.
Et, Et un peu plus tôt, quand nous étions à Lille, Léopold, il faut quand même dire que Éric Zemmour, certes, il fait beaucoup de déplacements tous les week-ends, il fait régulièrement des réunions publiques le samedi, mais c'est lui qui avait choisi de mettre en scène ce match, entre guillemets. C'est lui qui a choisi d'abord d'entrer en campagne il y a plusieurs mois contre Marine Le Pen. C'est lui qui a voulu, qui a imposé cette primaire nationaliste, et c'est lui qui a voulu hier, le jour du premier grand discours de Marine Le Pen, eh bien, de lui coller au basque et de faire lui aussi un grand discours avec plus de monde à Lille, dans la région où elle est élue. Donc c'est lui qui a voulu ce moment, qui a imposé ce match. Est-ce que, à ton avis, avec un peu de recul, avec quelques heures de recul, est-ce que c'était plutôt une stratégie gagnante, ou est-ce que finalement il aurait pu justement ne pas imposer ce match des meetings le même après-midi à Marine Le Pen?
Bah déjà, moi Philippe, j'entends sur tous les plateaux, et notamment toi, les invités que tu as reçus avec Camille Langlade en plateau, à chaque fois on nous dit oui, cette date, nous on fait des meetings toutes les semaines. Alors déjà on va préciser que non, il n'y a pas des meetings toutes les semaines. Si on regarde le calendrier des semaines passées, c'est factuellement faux. Et puis en plus, s'ils avaient voulu choisir, je sais pas moi, le dimanche ou alors la veille ou bien la semaine suivante. Absolument. Ou un jour différent, ils avaient le choix du calendrier, donc on peut pas nous dire en fait précisément que c'est le fruit du hasard. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que sur les plateaux, beaucoup de personnes nous disent ça, mais dans les coulisses, quand on pose la question, je l'ai encore fait hier, avec un ton assez ironique, on nous répond, mais vous croyez vraiment au hasard? Donc en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le décalage aussi qu'on peut avoir entre ce qui nous est dit et puis ce qui se raconte après un peu dans les couloirs. Donc personne ne nous fera croire qu'évidemment ce match n'a pas été volontairement imposé. C'est le premier point. Deuxième point, moi je trouve que ce que disait Loïc est intéressant, c'est-à-dire que ce qui a l'air de t'avoir marqué, Loïc, et ce qui a marqué beaucoup apparemment de personnes, c'est la séquence de la fin qui a surpris tout le monde. Nous, c'est vrai, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas eu vraiment de surprise. C'est-à-dire que la scénographie, le fait qu'Éric Zemmour traverse la foule, qu'il arrive, cette mise en scène est toujours la même maintenant depuis Villepinte. Il y a cette musique qui est exactement la même. Sur le fond du discours, il avait tenté effectivement là de jouer la carte du pouvoir d'achat. On en a beaucoup parlé, de s'adresser à notamment un public différent, un électorat différent, peut-être pour aussi venir à Lille, parler aux classes populaires, peut-être un électorat différent. Après, est-ce que ça a marché? On a quand même constaté, nous on se baladait aussi dans la foule pendant le discours pour observer les réactions. Et c'est vrai que les gens qui sont venus n'étaient pas forcément emballé, on n'avait pas de réaction aussi forte sur les thématiques du pouvoir d'achat, du travail, que sur les thématiques notamment de la sécurité ou de l'immigration. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant pour nous qui avons notamment couvert le meeting de Villepinte, qui était un meeting beaucoup plus axé sur l'immigration, qui était le thème majeur de ce début de campagne pour Éric Zemmour. Là, on voit qu'il cherche à s'ouvrir avec de nouvelles thématiques, peut-être aussi pour aller chasser sur les terres de Marine Le Pen et aussi sur les terres de Valérie Pécresse. Mais force est de constater que les réactions dans la salle, elles ne sont pas aussi immédiates. Les gens n'applaudissent pas au quart de tour immédiatement après ces prises de parole. Par contre, sur la fin du discours, quand il revient sur les thématiques, et notamment ce moment assez fort de la fin du meeting, où en fait il joue un peu une sorte de ping-pong avec la salle, en leur disant le travail c'est nous, et qu'en fait toute une sorte de métaphore revient de répétition du c'est nous, c'est nous, c'est nous. Là on sent que la salle est beaucoup plus chauffée à blanc qu'au début. Donc finalement c'est un peu un discours, je dirais, diesel. Il prend un peu de temps à monter et les réactions, elles sont progressives.
C'est exactement ce qui nous a surpris aussi. On était sur un petit praticable sur le bord de la scène où Éric Zemmour parlait avec Camille Langlade, et elle comme moi, c'était la première fois que nous venions à un discours, assister à une réunion publique d'Éric Zemmour. Et c'est ça aussi qui nous a frappé, que les longs moments, et c'était assez long, c'était l'essentiel du discours où il parlait pouvoir d'achat, travail. Il y avait des applaudissements, mais assez modestes. Il y avait même parfois des longues minutes sans vraiment d'applaudissements, comme si au fond, j'avais un peu, c'est ce qu'on s'est dit pour tout vous dire sur le praticable, c'est que c'est comme des gens qui viennent assister au concert d'un chanteur qu'ils aiment beaucoup. Ils viennent d'abord pour ses tubes et les chansons qu'ils connaissent, et les chansons du nouvel album. Bof, pas trop quoi. En tout cas, pas pour l'instant.
Après, là-dessus, il y a quand même des similitudes. Hein. C'est-à-dire que du côté de Reims, c'était un peu la même chose. On sentait bien que la salle s'enflammait beaucoup plus dès lors qu'on parlait d'immigration, d'insécurité, que lorsqu'on parlait pouvoir d'achat. Ça, je pense que la réaction des deux côtés, du côté du public, était la même à Reims comme à Lille.
Sinon, il y a un moment qui a été capté non pas par, en direct par les caméras de BFM TV, mais on avait une équipe qui tournait des coulisses, et on verra l'image sur l'antenne BFM TV plus tard, des coulisses à Lille. Et il me semble qu'après après le discours d'Éric Zemmour, il y a eu un moment de célébration collective. C'est-à-dire qu'ils ont, sorti le champagne. Il y avait Philippe Devilliers, Sarah Aknafou, Éric Zemmour. Ils ont sorti le champagne parce qu'ils pensaient avoir marqué vraiment un point. Un point important en ce jour de match comme ça sur les chaînes de télévision avec Marine Le Pen. Léopold, tu as senti aussi, toi, puisque tu as vu Éric Zemmour juste après le discours, oui. Tu as senti ce moment de... Voilà, on a marqué un point.
Alors oui, on l'a senti notamment parce que, comme tu le dis, il y a une équipe de notre service magazine de Ligne Rouge, ouais, qui a pu suivre un petit peu les coulisses avec un documentaire qui sera diffusé dans les prochaines semaines sur BFM TV, où on verra cette scène effectivement où apparemment, selon nos collègues, et ben en fait il y avait une sorte de vrai enthousiasme côté coulisses, où même voilà, Éric Zemmour était assez souriant. Moi, ce qui est intéressant, c'est que la nuit aussi, permettant d'avoir quelques réactions et de voir un petit peu ce qui s'est passé, j'ai échangé quelques messages ce matin avec certains membres des équipes, et on me dit très clairement que, je cite, en termes d'image, il n'y a pas photo, nous sommes bien devant. Donc en fait, il y a cette sorte de réaction a posteriori qui fait qu'ils ont vu les images, ils ont comparé les deux meetings. Sur la forme, en tout cas, ils sont extrêmement contents. Et ensuite, il faudra voir comment ça se matérialise dans les sondages. Il y a ce sondage qui a été publié il y a quelques heures maintenant, qui donne Éric Zemmour à 14% à égalité avec Marine Le Pen, avec lui donc qui gagne 2 points, elle qui en perd 3. Est-ce que c'est le début d'une dynamique, d'une nouvelle phase de campagne avec une relance de sa part? Faudra le voir dans les prochaines semaines. En tout cas, eux sont persuadés qu'on est sur une phase différente, et que là, le mois de février et surtout le mois de mars vont être une sorte de montée en puissance. En tout cas, ils l'espèrent vraiment de manière forte. Là, ça se dégage vraiment des derniers échanges qu'on a depuis les dernières heures.
Et on peut saluer le sens de la dramaturgie de nos confrères du Parisien qui ont mis en ligne ce sondage qu'ils avaient commandé depuis plusieurs jours, évidemment, à Ipsos, qui ont mis en ligne ce sondage exactement dans le moment, à la fin du discours d'Éric Zemmour et avant le discours de Marine Le Pen. Donc nous étions en direct sur BFM TV avec moi, j'étais sur le plateau avec Guillaume Pelletier, donc qui est un élément important de la campagne d'Éric Zemmour, et j'ai découvert ce sondage sur mon téléphone, je lui en ai fait état tout de suite à l'antenne, il l'a découvert avec nous en direct, et c'est vrai que ces sondages concrétisent ce que cherche à faire Éric Zemmour, c'est-à-dire rattraper Marine Le Pen et être dans la compétition pour être qualifié au second tour. C'est le fait que ce soit, alors il n'a pas été fait pour ça, mais le fait que cette publication du sondage intervienne à ce moment-là donnait un élément de dramaturgie assez incroyable. Loïc, une fois que l'enthousiasme, la foule, tout ça est retombé, dans la soirée, tu as pu discuter avec des soutiens de Marine Le Pen. Comment est-ce qu'ils sentent ce match? Est-ce qu'ils pensent que cette journée des deux villes, ce interville de la primaire nationaliste, a été favorable pour eux?
Sans surprise, ils étaient plutôt contents de leur championne. Ouais. En même temps, j'en attendais pas autre chose, objectivement. Ils étaient contents déjà parce que la salle était pleine, et plus encore, c'est-à-dire que 3000 personnes étaient attendues. Il y en avait manifestement plus de 4000, avec beaucoup de monde debout parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tout le monde avait quand même été un peu touché par cette dernière séquence parce qu'ils la connaissent tous, ils n'ont rien appris, il n'y a pas eu de révélation de leur côté. Mais c'est vrai que certains membres, même proches dans l'équipe, ont appris qu'il y aurait cette séquence intimiste 15 minutes seulement avant le début du discours. Donc il y avait un aspect comme ça. Et puis surtout, ils étaient contents qu'encore une fois, elle ait réussi à se détacher de ce duel dans lequel Éric Zemmour souhaite et a intérêt à l'amener. Marine Le Pen, elle le répète, Éric Zemmour, il n'a qu'une seule ambition, c'est de saboter ma campagne. Et donc tout l'enjeu pour elle, c'était d'arriver à sortir de ça. Vous parliez du sondage à l'instant. Il circulait déjà sous le manteau depuis 2 jours. Et dès la veille du meeting, vendredi soir, il y avait une réunion de campagne. Marine Le Pen a eu écho de ce sondage. Bon, bah voilà, ce qu'on m'a dit, c'est ça fait chier, quoi, pour employer les mots crus, mais c'est les mots qu'on a utilisés, parce que oui, ça va tomber pile le jour du meeting, oui, ça va encore une fois réorienter les sujets sur le duel à laquelle elle souhaite se détacher, elle souhaite se confronter à Emmanuel Macron. D'ailleurs, elle n'a cité qu'Emmanuel Macron à de nombreuses reprises, mais aussi Valérie Pécresse dans son discours. Elle n'a jamais cité Éric Zemmour, elle a quand même fait une référence, hein, toujours sur les outrances, les provocations, faut pas blesser, faut pas ajouter des blessures. blessures aux blessures. On aura compris à qui elle faisait référence, mais clairement, elle a essayé de s'en détacher. Et je pense qu'elle a plutôt réussi, en tout cas du mieux qu'elle pouvait. Après, les faits sont là, les sondages sont là, les débats sont là. Donc ça, elle ne peut pas y faire grand-chose.
Bon, Loïc, merci d'avoir été avec nous depuis Reims. Je crois qu'on a perdu au passage Léopold, puisque sa connexion a coupé. Donc on va s'arrêter là. Et puis on aura l'occasion d'en reparler, puisque ce sondage, évidemment, rabat un peu les cartes. Je crois qu'on a retrouvé Léopold. Bon, Léopold, t'es là ?
Je suis là.
Tu nous avais quitté quelques instants. C'est ça, t'étais pas intéressé par ce que racontait Loïc ?
Pas du tout, j'étais pour tout raconter, parce qu'on raconte tout dans ce podcast, j'étais en partance pour la gare, parce que là on doit rentrer à Paris pour suivre la suite de la campagne, donc
va reprendre ton réseau, mais bon voilà. Va reprendre ton train tranquillement, et puis on va en rester là, on se retrouve dans quelques jours, parce que évidemment tout ça va être très intéressant dans les jours qui viennent. Salut à tous les deux.
Bonne journée, salut.
Salut.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous, mettez des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de téléchargement. Ça permet de nourrir les algorithmes et donc de faire connaître à davantage d'auditeurs et de téléspectateurs ce balado, ce podcast, le service politique. À très bientôt.